Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Romain Oquet.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
8h sur Europe 1.
Dès notre première séance, le mercredi soir à 19h, notre séance est complète.
Il n'y a pas que les terrasses qui feront le plein mercredi, les cinémas aussi. On vous emmène dans l'une des plus vieilles salles de Paris qui se prépare à la réouverture.
Face à la situation au Proche-Orient, l'attentisme de la communauté internationale, nouvelle réunion du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui. À Gaza, la tension est montée d'un cran encore cette nuit, nous dira Mathieu Bock.
Un mois après l'épisode de gel, nous retournerons voir les producteurs. Les récoltes ont souffert et bientôt, c'est notre porte-monnaie qui va souffrir aussi.
Spectacle garanti cet après-midi au circuit du Mans. Grand Prix de France de Moto Grand Prix, MotoGP. Aucun Français s'est imposé depuis les 50 dernières années, mais ça pourrait changer. Zarco et Quartaro sont dans la course.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Souvenez-vous, Pierre, chers auditeurs, le bruit du ticket qu'on vous déchire avant d'entrer dans la salle obscure, celle d'une main qui plonge dans un paquet rempli de pop-corn. Mmh. Le plaisir du cinéma, après 7 mois de fermeture, il rouvre mercredi.
Nous sommes allés dans l'une des plus vieilles salles de la capitale, le Max Linder Panorama, où les équipes préparent le retour des spectateurs. Reportage d'Alexandra Sirgan.
Le projecteur en route, le générique du cinéma en plein écran. Dans sa cabine, José, le chef opérateur, teste son matériel de projection, très ému à l'idée d'enfin retrouver son public.
Le cinéma, il ne vit pas sans son public. C'est un plat sans sauce. Voilà, c'est un peu fade.
Et pour donner goût aux cinéphiles, un seul film à l'affiche de ce cinéma à un écran, Mandibule de l'excentrique Quentin Dupieux.
Il y a quoi dans la valise ?
Ça, c'est pas ton problème. Toi, t'oublies, t'y penses même pas à ça.
D'accord.
Attends, tu me dis d'accord, là, j'ai l'impression que tu comprends rien.
La gérante du cinéma, Claudine Cornia, est confiante pour cette réouverture.
On a déjà des messages, enfin, formidables, on sera là. Dès notre première séance, le mercredi soir à 19h, notre séance est complète. Je vais voir les gens, parce que là, je ne vois que des fantômes quand je suis dans cette salle. Je vais voir les gens et je vais les sentir, je vais les entendre.
Les fauteuils noirs en mousse de la salle pourront accueillir 200 personnes sur les 560 sièges. La jauge pourra grimper à près de 360 à partir du 9 juin.
Voilà le reportage en musique d'Alexandra Sirgan pour Europe 1.
Dès la fin de ce journal sur Europe, le réalisateur Christophe Baratier et l'acteur Victor Belmondo seront les invités de l'interview du dimanche pour le film Envole-moi.
Sur le front de l'épidémie, les courbes se croisent, Pierre.
Oui, celle du nombre de patients en réanimation diminue avec 4200 malades.
Et celle du nombre de vaccinés grimpe avec ce cap symbolique franchi hier. 20 millions de Français ont déjà reçu au moins une dose. Anne Le Gall, vous êtes la spécialiste santé d'Europe 1. Le gouvernement a donc tenu ses objectifs.
Oui, 380 000 premières doses et 100 000 rappels ont été injectés sur la journée d'hier. Un bon score pour un samedi avec 850 centres de vaccination qui étaient restés ouverts. Et désormais, 38% des adultes français ont donc reçu au moins une première injection. Dans les trois quarts des cas, ils ont été vaccinés avec le sérum de Pfizer qui continuera à représenter l'essentiel de nos livraisons dans les semaines qui viennent car nous en attendons 20 millions de doses rien que sur le mois de juin. Depuis la semaine dernière, la demande des rendez-vous de vaccination s'est accélérée. Mais attention aux plus vulnérables, a rappelé hier Jean Castex, car 22% des plus de 75 ans n'ont pas encore reçu leur première injection. Il va falloir donc aller les chercher. Prochain objectif, réussir à vacciner 10 millions de Français supplémentaires dans le mois qui vient, tout en poursuivant l'injection des rappels. L'arrivée dans une semaine du vaccin Moderna dans les pharmacies et chez les généralistes devrait permettre de fluidifier encore la prise de rendez-vous.
Les explications d'Anne Le Gall pour Europe 1.
Au Proche-Orient, face à l'escalade des tensions entre Israël et le Hamas, les réactions de la communauté internationale restent toujours mesurées.
Nouvelle réunion du Conseil de sécurité de l'ONU cet après-midi à 16h. C'est la troisième de la semaine. Les autres n'ont rien donné. Les États-Unis, alliés d'Israël, s'opposent à une déclaration commune.
Et pourtant, depuis lundi, 157 personnes sont mortes dans ces affrontements.
Des frappes israéliennes ont aussi pulvérisé un immeuble abritant des médias internationaux hier. Et ce matin, Mathieu Bock, on apprend que c'est aussi le domicile du chef du Hamas qui a été visé.
Oui, l'armée israélienne a annoncé avoir visé le domicile de Yahya Sinwar sans préciser s'il s'est trouvé en publiant une vidéo montrant une maison bombardée. Hier, tard dans la soirée, le mouvement islamiste avait annoncé qu'il allait tirer une salve de roquettes à minuit pile. Paniqués, les habitants des villes frontalières mais aussi de Tel Aviv se sont donc terrés dans les abris et le Hamas a tiré ses roquettes dans le centre et le sud d'Israël, interceptées par le système antimissile de Tsahal. Un peu plus tôt dans la soirée, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait pris la parole en anglais pour expliquer qu'il avait le soutien soutien total du président américain avec lequel il avait parlé au téléphone quelques instants plus tôt.
Je veux remercier le président des États-Unis, Joe Biden, et je veux remercier les nombreux pays, y compris les pays européens, qui ont fait flotter le drapeau israélien par solidarité sur leurs bâtiments gouvernementaux. Personne ne devrait avoir d'équivoque sur le choix qui est si clair ici. Et je veux remercier le président Biden pour son soutien clair et sans équivoque.
Benjamin Netanyahou en a profité pour s'expliquer sur les frappes de la veille contre un bâtiment de la presse, affirmant que c'était avant tout un site stratégique du Hamas et en précisant qu'il n'y avait pas eu de victimes. Une allocution donc pour se justifier aux yeux de l'Occident à quelques heures de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU.
Et pour aller plus loin, nous sommes ce matin en ligne avec Frédéric Chillot, historienne. Bonjour.
Bonjour.
Je précise pour nos auditeurs, vous êtes actuellement à Jérusalem. Comment expliquer la distance de la communauté internationale qui se contente d'appels au calme?
Tout d'abord, les événements à Jérusalem ont frappé l'opinion publique internationale, mais la crise elle est vite redevenue un affrontement quasi classique entre le Hamas et Israël. D'un côté, les roquettes du Hamas, de l'autre, les ripostes d'Israël. Une pluie de roquettes s'est abattue contre Tel Aviv, l'aéroport international Ben-Gourion. Le Hamas aussi a visé Eilat. Mais tout ça aussi le dessert dans l'opinion, parce que c'est difficile de venir soutenir le Hamas quand on voit que c'est une armée suréquipée qui frappe les civils israéliens. Et puis à cela, il faut ajouter un contexte international qui a changé. Il y a des réactions très modérées de la communauté internationale. Le président Macron a appelé à la désescalade et il a fermement condamné les tirs de roquettes contre Israël. Et il a d'ailleurs appelé Benjamin Netanyahou pour lui dire son attachement à la sécurité d'Israël.
Alors justement, hier soir, Joe Biden s'est entretenu avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et avec le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Biden lui demande la fin des tirs de roquettes. Ses réactions sont tardives finalement.
Oui, parce qu'en fait, Joe Biden ne s'attendait pas du tout à une crise au Moyen-Orient. Les Américains aujourd'hui se désengagent de la région. Ils ne voulaient pas intervenir et surtout pas sur le conflit israélo-palestinien qui est insoluble. Ils ne souhaitaient pas intervenir. Ils n'ont même pas de prise directe sur le terrain. Figurez-vous que les États-Unis n'ont ni ambassadeur à Jérusalem, ni consul général. Et donc, au dernier moment, un émissaire a été envoyé. Mais en réalité, Joe Biden, comme tous les présidents américains depuis 1967, eh bien, il se tient aux côtés d'Israël et de son droit à se défendre aussi contre le Hamas.
À 16h cet après-midi, heure française, le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir. L'ancien Sherpa de Jacques Chirac, Maurice Gourde-Montagne, se voulait optimiste il y a 20 minutes sur Europe 1. Mais selon vous, que peut-on en attendre ?
Pas grand-chose, parce que les États-Unis devraient justement bloquer. C'est eux qui ont d'ailleurs refusé une réunion d'urgence qui aurait dû se tenir beaucoup plus tôt. Les Américains soutiennent Israël. Au Conseil de sécurité, les États-Unis devraient s'opposer à tout texte qui condamne Israël. Et donc un communiqué sera très modéré.
Merci Frédéric Chillot. Je rappelle que vous êtes historienne et vous étiez en ligne ce matin avec nous depuis Jérusalem.
Merci à vous.
Nous reviendrons aussi sur le sujet avec Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Il sera l'invité du Grand Rendez-vous à partir de 10h sur Europe 1.
Avec Aurélie Herbemont aux manettes. 8h08, vous restez avec nous dans un instant. On retourne voir les producteurs et leurs récoltes un mois après l'épisode de gel. Et puis, direction Le Mans pour le Grand Prix de France de MotoGP. Aucun Français ne s'est imposé depuis les années 50. Ça pourrait changer cette année.
Europe 1, votre matinale info. Pierre de Villeneuve.
La suite du journal de Romain Oquet à 8h10. Et vous le savez, nous partons à la rencontre des agriculteurs depuis mercredi jusqu'au 24 mai à l'occasion de la semaine de l'agriculture française.
Et justement, nous sommes retournés voir les producteurs un mois après ces nuits glaciales d'avril. Depuis, les températures se sont radoucies, mais les récoltes ont souffert. Diane Berger.
Ah ben, en abricot, moi j'ai perdu 80% de la production. Pêche nectarine, j'espère faire 50% de production.
La pire récolte depuis au moins 30 ans, selon Bruno Darnoux. À la tête de l'Association d'organisation des producteurs de pêche et d'abricots de France, il en est sûr, cette année, sur les étals des marchés, il y aura moins de fruits que d'habitude.
Il y aura de l'abricot français, notamment en début de saison, parce que les producteurs du Sud sont un peu moins touchés. Mais c'est vrai que plus on va aller dans la saison, plus il risque de se faire rare.
Même inquiétude sur les poires, les cerises, le raisin. Un seul fruit souffre moins que les autres, c'est la pomme. En effet, certains arbres ont pu refleurir après le gel, explique Daniel Sauvêtre de l'association nationale Pomme-Poire.
Maintenant, la difficulté va être de savoir si la qualité sera suffisante, si ces fleurs qui ont un moins bon potentiel permettront d'avoir des fruits d'une bonne grosseur. Et je pense qu'on ne prend pas beaucoup de risques à dire qu'on aura une toute petite récolte cette année en France. Quand la récolte est faible et qu'on a une bonne relation offre-demande, ben les prix sont soutenus.
Et face aux pénuries de fruits, difficile de compter cet été sur les importations. L'Italie et l'Espagne ont également souffert de l'épisode de gel.
Et à noter que ce soir dans le 18-20, Wendy Bouchard reçoit Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture, une émission spéciale en direct d'une ferme dans le Cher.
Spectacle garanti cet après-midi sur le circuit du Mans.
La piste sartoise accueille le Grand Prix de France moto, cinquième manche du championnat du monde. Top départ à 14h, à huis clos, mais quand même avec beaucoup d'ambition pour les deux pilotes tricolores engagés en MotoGP, Axel May.
Comme l'an dernier, les pilotes tournent seuls sur le circuit Bugatti, sans public pour les acclamer. Un crève-cœur pour le jeune Fabio Quartararo, déjà deux victoires cette saison.
Et c'est triste, surtout quand on fait un bon résultat, qu'on aime le partager avec ses fans, avec le public. Bah là, malheureusement, dans le tour d'honneur, il n'y a personne.
Malgré une intervention chirurgicale au poignet après le dernier Grand Prix en Espagne, Fabio Quartararo espère bien monter sur le podium au Mans, tout comme son compatriote Johann Zarco, deux fois deuxième en ce début de saison.
Je vais réviser bien la Marseillaise. Si on peut refaire en chœur avec Fabio, je pense qu'il y aurait moyen de s'éclater.
En tout cas, à défaut de public dans les tribunes, le Grand Prix diffusé en clair pourrait battre un record d'audience. Sébastien Poirier, président de la Fédération française de moto.
On a la chance d'avoir deux pilotes français qui trustent et qui animent la catégorie reine. Et à travers eux, c'est évidemment la moto, le sport moto, mais c'est aussi la France qui gagne, qui rayonne.
Aucun pilote tricolore ne s'est toutefois imposé dans la catégorie reine sur un Grand Prix de France depuis la fin des années 50.
Merci Axel May du service des sports d'Europe 1, on suivra ça donc. Et puis en tennis, répétition générale à moins de 10 jours du début de Roland-Garros. Une finale entre Rafael Nadal et Novak Djokovic, mais cette fois au Masters 1000 de Rome. C'est cet après-midi à 17h.
Merci Romain Doquet, c'était le journal de 8h. Vous revenez bien sûr à 9h pour le dernier journal de cette matinale.